Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 12 janvier 2024, le 22 day 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Téhéran condamne les attaques américaines et britanniques lancées sur le Yémen. Le Hamas remercie l'Afrique du Sud d'avoir déposé une plainte contre Israël auprès de la CIJ. Et l'arrivée au Stéphane séjournait au Quai d'Orsay en France. C'était le principal titre de l'actualité. En voici les détails. Téhéran a fermement condamné les attaques militaires américaines et britanniques contre le Yémen, les qualifiant d'actions arbitraires et de violations flagrantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen, ajoutant qu'il y avait là aussi une violation des lois internationales applicables. Les responsables d'Ansarallah au Yémen ont déclaré que des explosions avaient frappé les villes de Sana'a, Oudaïda, Saada et Zamar. Tout ce vendredi 12 janvier 2024, un responsable américain a quant à lui annoncé que des attaques américaines et britanniques contre le Yémen avaient été menées par des avions, des navires et des sous-marins. Dans le cadre d'une première réaction de Téhéran à cette agression, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a souligné que les attaques arbitraires n'auront d'autres résultats que d'alimenter l'insécurité et l'instabilité dans la région. Ces attaques militaires s'inscrivent dans le cadre du soutien total des États-Unis et du Royaume-Uni aux crimes de guerre du régime sioniste contre la nation palestinienne et les citoyens opprimés de la bande de Gaza qui se trouvent sous un siège complet depuis les 100 derniers jours, a-t-il déclaré. Tandis que le régime israélien poursuit ses attaques et ses crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, Washington et Londres tentent de détourner l'attention des peuples du monde des crimes de ce régime factice, criminel et agresseur contre le peuple palestinien, en élargissant en effet leur soutien à ce dernier, a-t-il déclaré. Le membre du Conseil suprême politique du Yémen a qualifié, lui, de sauvage et de terroriste de l'agression américano-britannique, assurant que son pays y ripostera. Dans une déclaration vendredi sur les réseaux sociaux, Mohamed Ali Al-Houssi, membre du Conseil révolutionnaire suprême d'Ansarallah au Yémen, a déclaré que les frappes aériennes sont barbares, terroristes et constituent une agression délibérée et injustifiée qui reflète une mentalité brutale. Avec cette agression, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait preuve une fois de plus qu'ils commanditent l'agression à Gaza comme celle au Yémen et qu'ils soutiennent le régime terroriste sioniste, a-t-il écrit sur X. Les attaques américano-britanniques contre le Yémen constituent une agression flagrante et injustifiable et sont menées à un moment où le monde cherche un moyen de mettre fin au génocide à Gaza, a-t-il dénoncé, et de poursuivre cette agression a une fois de plus montré leur soutien au régime sioniste et à la poursuite du crime à Gaza. ce membre du Conseil suprême politique d'Ansar Allah a assuré que les frappes aériennes américano-britanniques contre le Yémen ne resteraient pas sans réponse et qu'un communiqué serait publié prochainement à ce sujet. De même, les ministères des Affaires étrangères russes et chinois, tout en exprimant leur inquiétude face aux frappes aériennes au Yémen, ont déclaré que cette action augmenterait les tensions dans la région de l'Asie occidentale. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré « Les attaques américaines contre le Yémen sont un autre exemple de la distorsion des résolutions du Conseil de sécurité et du mépris total des lois internationales, ce qui conduit à une escalade des tensions dans la région. » Fin de citation. Selon l'agence de presse russe Sputnik, le ministère chinois des Affaires étrangères a quant à lui affirmé d'exit « Nous sommes préoccupés par l'escalade des tensions en mer Rouge et nous demandons à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue. » Le mouvement de résistance islamique de Palestine, Hamas, exprime sa gratitude envers l'Afrique du Sud pour les poursuites judiciaires intentées par Pretoria contre le régime israélien en raison de la guerre génocidaire qu'il mène contre la bande de Gaza. Izzat Al-Rishk, membre du bureau politique du Hamas, a fait ses remarques jeudi lorsque la Cour internationale de justice, CIJ, a tenu sa première audience dans l'affaire déposée par Pretoria auprès du tribunal fin décembre. Rishk a déclaré que les preuves présentées par Pretoria au tribunal ont prouvé au monde entier que le régime sioniste avait eu recours au massacre et au nettoyage ethnique du peuple palestinien à Gaza. L'État d'Afrique du Sud prouve une fois de plus l'authenticité de sa position de principe en soutenant notre peuple palestinien, sa cause et son rejet des crimes brutaux de l'occupation contre notre peuple et ses droits nationaux légitimes, s'est félicité le responsable du Hamas. Pretoria a-t-il ajouté, a prouvé qu'il s'opposait aux crimes sauvages du régime israélien contre notre nation et ses droits légitimes. Le régime israélien a déclenché le 7 octobre dernier une guerre sanglante contre la bande de Gaza après que le Hamas a mené l'opération surprise tempête d'Al-Aqsa ou déluge d'Al-Aqsa contre l'entité usurpatrice en riposte aux atrocités du régime israélien contre les Palestiniens. Depuis le début de l'offensive soutenue par les États-Unis, le régime israélien a tué au moins 23 210 Palestiniens, la majorité des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 59 177 autres. Des milliers d'autres sont également portés disparus et présumés morts sous les décombres. Sur fond de l'escalade des tensions à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée qui ont conduit à l'assassinat de civils libanais, deux travailleurs humanitaires ont été tués jeudi lors d'une attaque de l'armée israélienne contre un centre de secours au sud du Liban. En représailles, le Hezbollah a tiré une dizaine de roquettes depuis le sud du Liban vers les colonies sionistes, dont Kiryat Shmona, située dans le nord des territoires occupés. Les sources israéliennes ont confirmé que 20 roquettes avaient touché la colonie de Kiryat Shmona, provoquant une coupure d'électricité. Peu après l'attaque, la résistance libanaise s'est dit prête à riposter immédiatement à toute attaque de l'armée sioniste contre les civils libanais. Direction France, pour fermer le journal, Stéphane Séjourné a pris le poste de ministre des Affaires étrangères et remplacé Catherine Colonna, qui occupait ce poste depuis mai 2022. Stéphane Séjourné, 38 ans, est à la tête du parti présidentiel, mais aussi élu député européen Renew, et président du groupe macroniste au Parlement européen. Gabriel Attal a été également nommé ce mardi Premier ministre en remplaçant d'Elisabeth Borne, démissionnaire, celui qui avait été auparavant porte-parole du gouvernement, ministre chargé des comptes publics ou encore ministre de l'Éducation nationale, a donc composé son premier gouvernement. La liste a été donnée jeudi au soir par Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Les analystes estiment que cette décision ne mènera pas nécessairement à un changement politique majeur, mais témoigne de la volonté de Macron de se débarrasser des réformes impopulaires des retraites et de l'immigration de l'année dernière et d'améliorer les chances de son parti centriste aux élections européennes de juin. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Israël risque d'être interdit de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour avoir tué des athlètes palestiniens. La communauté palestinienne du football pleure la perte de Hani Al-Mossader, un joueur vétéran et entraîneur de l'équipe olympique palestinienne de football, tué lors d'une frappe aérienne israélienne sur Gaza la semaine dernière. Connu sous le nom d'Abu Al-Abed dans les cercles de football palestinien, il est devenu la dernière victime du génocide en cours par le régime occupant qui n'épargne pas les athlètes. Selon les médias palestiniens, depuis le 7 octobre, au moins 88 athlètes palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes, dont 77 joueurs de football. Au moins 88 athlètes de sport collectif et individuel, dont 77 joueurs de football, ont été tués. De plus, 24 responsables du personnel d'encadrement et technique ont également perdu la vie dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération palestinienne de foot, PFA. L'association a déclaré avoir envoyé des lettres urgentes au Comité international olympique, CIO, et à toutes les fédérations internationales, continentale et régionale, y compris la FIFA, appelant à une enquête internationale urgente sur les crimes de l'occupation contre le sport en Palestine. Récemment, un magazine américain s'est penché sur la perspective de la participation d'Israël aux Jeux olympiques de Paris 2024, se demandant s'il devait faire l'objet de sanctions ou d'une exclusion pure et simple. Les attaques israéliennes sur Gaza soulèvent une question que les puissances occidentales du monde du sport aimeraient éviter. Israël devrait-il pénaliser, voire interdit de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, a indiqué The Nation, magazine américain. Un célèbre journaliste de football, dans une interview accordée à Press TV, a dénoncé l'hypocrisie des organisations sportives internationales pour leur échec à interdire à Israël les événements sportifs mondiaux en raison de son génocide en cours dans la bande de Gaza. Nimot Avalloï Roudsari, soutenant une pétition lancée par le mouvement Démocratie en Europe 2025, a déclaré qu'Israël devait également être exclu des événements sportifs internationaux si la Russie l'est à cause de la guerre en Ukraine. La pétition affirme que les gouvernements occidentaux continuent de suivre la ligne officielle d'Israël, ignorant le génocide en cours à Gaza, avec plus de 23 000 morts jusqu'à présent. Le Comité international olympique, CIO, la FIFA, l'UEFA, la FIBA et d'autres organisations sportives sont complices de Tel Aviv car ils autorisent la participation du régime d'apartheid à leur événement. Après une réponse rapide et une suspension instantanée de la Russie, il aurait désormais difficile de justifier de fermer les yeux sur les actions du régime israélien, a-t-il déclaré.
Bonjour à tous, bienvenue parmi nous dans ce débat consacré encore une fois à Gaza, comme nous l'avons déjà annoncé auparavant. Nous serons avec les Palestiniens jusqu'à la fin de cette guerre. Alors le sujet d'aujourd'hui étant les répercussions des actes terroristes de l'entité sioniste, les réponses données par la résistance, pas seulement la résistance palestinienne, mais aussi la résistance donc libanaise, la résistance irakienne et la résistance syrienne. C'est le sujet de notre débat. Je vous propose d'abord de voir et de regarder notre reportage et par la suite nous ferons donc venir nos deux invités comme le veut notre format. Tout de suite, notre reportage.
Le retrait honteux d'Israël de Gaza, les attaques terroristes à Damas, Beyrouth et Kerman. La pression s'est accrue ces dernières semaines sur le régime de Benjamin Netanyahou, y compris de la part des alliés occidentaux, pour qu'ils mettent fin à l'agression et au siège de Gaza qui se sont révélés un exercice futile. Même le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, lors de sa conférence de presse à Tel Aviv le 18 décembre, a vaguement suggéré qu'Israël n'avait pas réussi à réaliser des progrès substantiels à Gaza depuis près de 3 mois. Cela s'est produit quelques jours après que l'entité sioniste a reçu des coups humiliants à Shujaïe le 13 décembre, des attaques ayant éliminé des bataillons entiers de son élite et de sa très médiatisée brigade Golani. Bien que les États-Unis fassent tout leur possible pour soutenir militairement le régime occupant, ce dernier continue de progresser vers l'anéantissement. Le bilan israélien s'élève à plus de 500 morts, sans compter plus de 5000 soldats blessés. Selon le dernier rapport, environ 13 500 membres des forces israéliennes ont également été déclarés invalides depuis le 7 octobre, avec divers degrés de handicap physique et mental. L'occupation israélienne n'a pas réussi à faire face à la stratégie maîtrisée par les combattants de la résistance palestinienne qui les a pris par surprise dans les combats terrestres et souterrains. Le 21 décembre, les sionistes ont annoncé le retrait de leur brigade dite d'élite de Gaza, suivi du retrait de milliers de soldats supplémentaires de ce territoire. Il est indéniable que la résistance palestinienne reste forte et inébranlable face à une armée dont les investissements colossaux, dont la technologie militaire, la puissance aérienne et la surveillance n'ont pas pu compenser l'absence totale d'une force de combat capable et déterminée. Après le retrait humiliant de la brigade Golani de Gaza qui a marqué un revers majeur pour le régime, celui-ci a eu recours à des attaques au-delà de Gaza, à commencer par Damas, où le haut conseiller militaire iranien Sayed Razi Mousavi a été assassiné. Et l'occupation a continué à retirer ses troupes de Gaza de manière humiliante. Depuis le 7 octobre, le mouvement de résistance libanaise, Hezbollah, solidaire de la résistance palestinienne, a mis le régime dans une impasse avec ses frappes de haute précision sur les cibles israéliennes. L'armée d'occupation est restée occupée sur le front nord avec un demi-million de colons qui ont été évacués et qui ne sont pas revenus, dont 250 000 sur le seul front nord. Pour détourner l'attention des pertes massives subies de la part des résistances palestiniennes et libanaises, le régime a décidé d'assassiner le haut dirigeant du Hamas, Saleh al-Arouri, dans la banlieue de Beyrouth. Pourtant, cette attaque n'a rien changé à la réalité de la nouvelle équation sur le terrain. Comme Arouri l'a mentionné dans un récent discours, la mort et les menaces d'assassinat ne parviennent pas à éteindre l'élan de la résistance et le sang versé par les martyrs précédents n'a fait que renforcer la résistance.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, nous allons accueillir nos deux invités. Commençons tout de suite avec Madame Aïssar Midani, notre expert. Je tiens à le rappeler à nos chers auditeurs que Madame Aïssar nous a dit Midani est avec nous depuis le début du terrorisme en Syrie, qui nous a permis de savoir ce qui se passait à l'époque où il n'y avait rien en matière de médias indépendants. Bonjour Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation et je suis aussi ravie d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne année de lutte pour les victoires de l'axe de la résistance.
Merci,
nous les souhaitons
Idène.
Tous.
Merci.
Et bonjour à votre invité.
Merci. Alors, notre deuxième invité, M. Amrouni, expert également présent en France, qui nous suit depuis très longtemps avec Presse TV sur les questions régionaux. Donc, concernant notamment le Moyen-Orient. Bonjour, Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et à votre équipe, à tous les téléspectateurs, à votre chère invitée, Madame Idani. Bonne et heureuse année, bonne santé surtout et bonne continuation pour vous et pour tous les journalistes qui travaillent sur le terrain pour amener l'information. Parce que c'est une guerre, d'abord, une guerre d'information aujourd'hui.
Tout à fait. C'est même le professeur Obola de Beyrouth qui nous avait indiqué qu'elle estimait que c'était le septième ou le huitième pouvoir finalement à l'heure actuelle, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui finalement a été extrêmement suivi et qui nous permet de suivre en direct ce qui se passe en Palestine. Madame Midani, on va commencer par vous parce qu'il y a eu différentes attaques en deux semaines, voire même une semaine. Si on les calcule tous, il y a eu au Liban, il y a eu en Irak, il y a eu en Syrie. Bon, on ne calcule plus le nombre d'attaques en Palestine, étant donné que c'est permanent. Mais ce sont des attaques ciblées, ce sont des attaques qui ont été fomentées afin de réduire ou tout simplement de rendre plus faible la résistance, parce qu'il semblerait que la résistance amène des victoires, parce que sinon ils n'auraient pas été attaqués de cette manière-là, c'est ce qu'on pourrait penser en tous les cas de figure. Mais ce sont des actes dits terroristes, parce que pour ce qui est de la résistance irakienne, ça s'est fait dans les locaux des militaires nationaux, donc c'est contre la souveraineté irakienne. À Beyrouth, c'est de ce même fait, donc au centre même de la capitale libanaise, donc encore une fois, souveraineté. En Irak, on ne parle pas, en Syrie, on ne parle pas du nombre de fois où la souveraineté a été bafouée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces différents contextes qui se ressemblent finalement?
En fait, j'ai envie de commencer plutôt par saluer la résistance palestinienne et ses victoires, et aussi tout l'ensemble de l'axe de la résistance, qui assène des coups, vraiment des coups fatals, en fait, à Israël. Et ce qui fait qu'Israël, qui est complètement, en fait, cet État fantoche, qui est soutenu d'ailleurs par toutes les forces impérialistes du monde, la première étant les États-Unis, qui a construit pratiquement un pont permanent de soutien en munitions, en armes, etc., à Israël. Malgré tout, en fait, il essuie vraiment des échecs cuisants. Son armée est démoralisée et son peuple aussi. Je voudrais rappeler quand même que les, comme vous l'avez dit très clairement dans votre rapport, en fait, qu'il y a quand même au moins 500 000 de colons qui ont quitté et qui ne veulent plus revenir. Donc on voit que l'État fantoche d'Israël est dans une phase de désespoir total, ce qui fait qu'il passe à une politique d'assassinat, ce qui n'est pas nouveau pour lui, mais les agressions américaines aussi se font sur le terrain, ce qui explique aussi ces différents attentats, je dirais, non seulement à la souveraineté de l'Iran, puisqu'ils ont effectué deux attentats barbares, en fait, hein, vraiment barbares, et pour l'anniversaire du décès et de l'assassinat du général Qassem Soleimani et Abu Mahdi Mohandes. De la même manière, en Irak, ils se sont attaqués à pleine capitale, en fait, ce qu'on appelle la ville verte, hein, à l'administration irakienne et aussi aux résistants, au mouvement de résistance, Al-Hashd al-Sha'bi, qui est partie intégrante de l'armée irakienne et de l'État irakien. Ils se sont attaqués aussi avec des assassinats du général Radi Moussaoui aussi en Syrie, donc en plein centre de Damas aussi, et en plein centre de Beyrouth, hein, dans le quartier qui est vraiment le fief de Hezbollah, aux dirigeants de Hamas, Saleh Al-Arouri. En fait, c'est leur désespoir qui se fait. Je voudrais quand même rappeler qu'ils ont été obligés de retirer aussi leurs troupes de choc, là, la brigade Al-Golani de la Palestine, de Gaza. En fait, ils essuient aussi des grands coups, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, quand ils veulent envahir Jenin, etc. Aujourd'hui, il y a eu aussi des dégâts dans leur armée qui voulait envahir Jenin. De la même manière, beaucoup de soldats ont dépéri à la fois dans leur Merkava, les chars Merkava qui sont la fierté de la production des armes israéliennes, donc là où ils sont attaqués par les militants et par le djihad islamique, en fait, mais à la distance zéro, c'est-à-dire qu'ils vont directement en direct à la confrontation, même avec les chars. Des dizaines aussi et des centaines qui ont dépéri dans les ouvertures des tunnels, parce qu'ils pensaient, ça y est, on a trouvé des tunnels de Hamas, etc. Et en fait, c'était que des pièges pour où les tunnels se sont fait ont été explosés avec les soldats israéliens dedans. Donc en fait, état de démoralisation générale, je dirais, dans l'armée israélienne. Et à tel point d'ailleurs, pas seulement ils sont reçus par les psychiatres et par les psychologues, mais aussi nombreux d'entre eux qui refusent aussi maintenant, de nombreux réservistes qui refusent de prendre service, notamment les réservistes qui arrivent à 18 ans et qui doivent y aller et qui doivent aller au service, où il y a un mouvement, un mouvement de ces jeunes qui refusent non seulement d'y aller, mais qui aussi dénoncent l'armée israélienne comme une armée d'apartheid et d'agression et de tueurs des enfants et des femmes. Donc, vraiment, la crise, elle est très profonde. Ajoutez, bien sûr, on le sait, avant le 7 octobre, il y avait quand même au moins 40 semaines de manifestations qui ne discontinuaient pas, de centaines de milliers de personnes contre ce gouvernement qualifié d'extrême droite, en fait, du côté israélien, en fait, hein, et qui voulait absolument la démission de Netanyahou et la démission de ce gouvernement d'extrême droite. Bien sûr, là, pendant la guerre, là, ils ont arrêté. Mais ils ont même réussi à mobiliser quand même la population à leur côté. Mais là, maintenant, comme en plus, ils n'ont pas libéré les otages, et d'ailleurs, clairement, ils ne refusent tout cessez-le-feu et toutes les conditions nécessaires à la libération des otages. Donc, vraiment, la population est plutôt contre eux.
Merci, voilà. Madame Midani. Alors, Monsieur Amrouni, depuis le début, le narratif qu'on peut trouver dans les journaux occidentaux et même par la voix même des gouvernements occidentaux, on a toujours présenté le Hezbollah ou les différentes résistances présentes en Irak ou en Syrie ou même en Palestine comme des terroristes, alors que même des spécialistes en loi ont bien présenté que la résistance en Palestine ne peut pas être exprimée comme étant terroriste parce qu'il y a le droit à la résistance. Mais bon, ils sont présentés tels quels dans l'actualité internationale. Et on a vu ces dernières semaines, je ne parle même pas de ce qui se passait en Palestine, mais ce qui s'est passé également parmi les pays voisins de la Palestine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu des exactions terroristes de la part de l'entité sioniste, puisque comme l'a dit Mme Midani, il y a un instant, ce sont des actes terroristes puisqu'ils se sont pris à la souveraineté d'un pays, ils se sont pris à l'armée d'un pays alors qu'ils étaient pas en, ils sont pas en guerre officiellement. Donc en fait, c'est finalement, ce sont des faits que finalement seuls des journaux comme Presse TV ou des journaux parallèles ont indiqué. Il faut savoir exprimer le mot terrorisme et est facilement utilisé par le monde occidental, alors que si on regarde les faits, on est loin d'actes terroristes de la part de ces différents groupes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on voit maintenant directement à la télévision ces actes terroristes réalisés par l'antisionisme et comment finalement on arrive à les justifier?
D'abord, permettez-moi de saluer le peuple palestinien, le peuple de Gaza, la résistance palestinienne qui maintenant, on arrive au fameux 100 jours. Aujourd'hui, on est en 94e jour. Et on va arriver 100 jours de bombardement, de destruction, de génocide, nettoyage ethnique, de la barbarie, le maximum de la barbarie humaine. On l'a jamais vu dans l'histoire humaine, c'est-à-dire il y a eu des massacres, mais on ne les a pas vus. Les massacres des Indiens, les massacres des Vietnamiens, les massacres des Africains en Amérique latine, mais on ne l'a pas vu, on l'a vu plus tard. Mais aujourd'hui, on le voit en direct. C'est le changement réel aujourd'hui. C'est que la guerre, la tuerie, le nettoyage ethnique, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, les femmes, les enfants, on continue à tuer des femmes et des enfants à Gaza. Il ne faut pas l'oublier. Il y a 200 morts par jour, il y a 200 martyrs par jour. Il y a à peu près 500 blessés par jour. On ne trouve pas à manger, on ne trouve pas de l'eau. Il n'y a pas de vie à Gaza aujourd'hui.
Donc il faut toujours ça,
la barbarie de l'armée occidentale sioniste. Parce que ceux qui occupent la Palestine, ce n'est pas des juifs, c'est des occidentaux qui sont venus au nom d'une religion, au nom d'une histoire falsifiée, et ils ont occupé la Palestine. Aujourd'hui, ces colons ne veulent plus revenir vers la frontière avec Gaza, ne veulent plus revenir vers la frontière du Liban, mais toute la société israélienne aujourd'hui, elle se pose en question sur son avenir. Est-ce qu'on a un avenir réel aujourd'hui dans cette région? Et c'est toute la question. Et permettez-moi de dire, j'étais surpris après l'assassinat de grands résistants, Salah al-Arouri, mais même le commandant Rabi Moussaoui, et l'attentat en Iran, on a vu que les journaux en France et même en Angleterre et aux États-Unis n'ont pas appelé Salah al-Arouri le terroriste. Ils ont dit l'assassinat d'un combattant, d'un chef palestinien. Donc même les journaux aujourd'hui en France hésitent à employer le mot terroriste par rapport à des commandants, par rapport à des résistants, que ce soit des Libanais, des Irakiens ou des Palestiniens. Donc il y a un changement dans le ton au niveau journalistique en Europe, mais aussi on a vu sur des plateaux télé, on n'a jamais vu ça, désigner les Israéliens comme des nazis, donc comme des barbares. Ça aussi, ça a changé. C'est le prix du sang des enfants palestiniens, des enfants de Gaza, les femmes de Gaza. C'est un prix hautement aujourd'hui bénéficiaire pour la résistance palestinienne et pour la libération de la Palestine. Mais permettez-moi, il y a un changement radical aujourd'hui dans l'opinion publique mondiale et surtout l'opinion publique occidentale. La question palestinienne, ce n'est plus une question entre la Palestine et Israël. La question palestinienne, aujourd'hui, c'est une question de la libération de l'humain. Aujourd'hui, les hommes, les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Américains même, ils ressentent qu'ils sont occupés par l'impérialisme. Aujourd'hui, le peuple américain lutte contre l'impérialisme américain. C'est incroyable. Donc, c'est un changement majeur. Il faut le noter. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est cette entité placée par l'impérialisme anglo-saxon qui se pose la question. Ce n'est pas le peuple palestinien qui pose la question. Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte Gaza? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte la Cisjordanie? Est-ce que la résistance palestinienne va entrer en guerre contre l'Israël ou c'est Israël qui va entrer en guerre contre la résistance libanaise? Aujourd'hui, la question centrale, elle se trouve au centre même de l'administration américaine. Est-ce qu'on va laisser le gouvernement de M. Netanyahou continuer sa barbarie? est au-delà de son jour. C'est pour ça que je dis que dans l'esprit américain, son jour, c'est très important. Il donne toujours son jour. Donc aujourd'hui, est-ce que Netanyahou va rester dans le gouvernement? Est-ce que ce gouvernement va rester? Si ce gouvernement reste en Israël, ça veut dire qu'on va vers la grande guerre.
Excusez-moi, monsieur Avroni, je vous interromps là-dessus, en sachant aussi que le Congrès s'est exprimé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le Congrès s'est exprimé la semaine dernière en disant clairement qu'ils n'avaient plus d'argent à donner. Il faut se rappeler, vous en aviez parlé tout à l'heure, madame Midani, du coût de la guerre provoquée par les États-Unis et l'entité sioniste, qui est de, si je ne me trompe pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était autour de 550 millions.
Malheureusement, ce n'est pas les Américains qui financent la guerre d'Israël, c'est les Arabes. C'est les Arabes qui financent. Et il faut le dire, il faut le dire aujourd'hui. Ceux qui trahissent la Palestine, ce n'est pas les Américains. Ceux qui trahissent la Palestine, c'est les Arabes, et surtout les Arabes autour. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 100 millions d'Égyptiens, on a combien de Jordaniens, on a combien de toute cette population arabe? On a 340 millions d'Arabes. Qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Aujourd'hui, cette guerre, elle est financée par l'argent arabe, par l'argent qui est donné par, je ne veux pas lui nommer le pays, mais tout le monde sait de qui je parle. Aujourd'hui,
merci,
malheureusement...
Madame Midani, je vous vois réagir sur mon écran. Qu'est-ce que vous avez à dire à monsieur Avroni tout de suite dans le vif?
Parce que moi, je refuse parfaitement qu'on dise que ce sont les Arabes. Il ne faut pas assimiler quelques gouvernements vendus ou sous la coupe américaine au peuple. L'empêche que les peuples de tous les pays du monde, d'ailleurs, y compris les pays arabes, ils ont le cœur avec la Palestine. Et c'est quand même quelque chose de très important à voir. Il faut voir quand même que les protectorats britanniques du Golfe et qui ont été placés en début du siècle dernier ou en milieu du siècle dernier au pouvoir, c'est quand même, ce sont eux qui sont sous la pression américaine en train de financer effectivement le terrorisme dans la région, comme ils l'ont fait vis-à-vis de la Syrie, mais aussi ils financent en partie cette guerre parce que c'est la pression, les pressions américaines, etc. Mais aussi parce que ce ne sont pas des pays indépendants, ce sont des pays dépendants. Ils sont sous la coupelle américaine et sous la domination américaine, il faut le savoir, mais de toute façon, moi je voudrais saluer quand même, et il faut insister sur ce fait, que la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie aussi, il y a un énorme mouvement de soutien à la résistance palestinienne en Jordanie, un énorme mouvement de résistance et de soutien à la résistance palestinienne à Bahreïn. Et les Émirats, c'est quoi? C'est en fait un territoire comme Hong Kong, c'est en fait de business pour les Britanniques. Mais l'Arabie Saoudite aussi, jusqu'à présent, elle fait des choses en sous la table, mais elle essaye de réagir aussi à sa manière. Dans le soutien des Palestiniens, mais aussi dans la présence, je dirais, elle jongle avec la présence américaine et ses accords avec les Américains. Par contre, l'Égypte, le peuple égyptien est aussi avec les Palestiniens et pour le soutien total à la lutte du peuple palestinien. Je voudrais rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un soldat, à titre individuel d'ailleurs, il a dû exécuter deux soldats israéliens aux frontières de Rafah, par là. C'est sûr que les gens, ils ont... Il y a quand même des rapports de force qui se font.
Merci, Mme Midani.
Je refuse qu'on dise que ce sont les Arabes qui financent cette guerre.
Merci, Mme Midani. Merci, monsieur Avroni. Merci,
permettez-moi,
madame.
Permettez-moi une dernière
on
phrase.
On n'a plus le temps, en fait, pour l'enregistrement. Désolée.
Cette année, c'est une année de la victoire de la Palestine et de la résistance palestinienne et de tous les peuples qui luttent contre l'hégémonisme, l'hégémonie américaine, mais aussi les peuples qui luttent pour leur indépendance, en fait. Donc, aussi bien Moi, je voudrais dire quand même juste une petite réalité, c'est que la destruction de l'Irak et de la Syrie a été parce que, pour leur soutien à la Palestine. Il ne faut pas nier ça. Et aujourd'hui, l'Irak et la Syrie sont des pierres angulaires dans la lutte contre l'hégémonisme et le sionisme dans la région. En plus des Palestiniens, bien sûr.
On n'oublie pas que Mme Midani a été directement... a vu directement ce qui se passait en Syrie, donc elle sait de quoi elle parle. Je vous remercie, chers téléspectateurs, je vais faire vite pour vous dire au revoir et vous dire à la prochaine fois. Nos condoléances vont aux familles des victimes du terrorisme sioniste, notamment aux Palestiniens. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par le régime israélien contre les athlètes palestiniens. Israël risque d'être interdit de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 pour avoir tué des athlètes palestiniens. La communauté palestinienne du football pleure la perte de Hani Al-Moussader, un joueur vétéran et entraîneur de l'équipe olympique palestinienne de football, tué lors d'une frappe aérienne israélienne sur Gaza la semaine dernière. Connu sous le nom d'Abou Al-Abed dans les cercles du football palestinien, il est devenu la dernière victime du génocide en cours par le régime occupant qui n'épargne pas les athlètes. Selon les médias palestiniens, depuis le 7 octobre, au moins 84 athlètes palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes, dont 67 joueurs de football. Au moins 84 athlètes de sport collectif et individuel, dont 67 joueurs de football, ont été tués. De plus, 24 responsables du personnel d'encadrement et technique ont également perdu la vie dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération palestinienne de football. L'association a déclaré avoir envoyé des lettres urgentes au Comité international olympique et à toutes les fédérations internationales, continentales et régionales, y compris la FIFA, appelant à une enquête internationale urgente sur les crimes de l'occupation israélienne contre le sport en Palestine. Les infrastructures sportives du territoire côtier assiégé ont également été la cible de bombardements aériens israéliens dévastateurs au cours des trois derniers mois, entraînant des destructions généralisées. Condamnant les actions de l'armée israélienne, le Conseil suprême des sports basé à Gaza a déclaré que l'armée israélienne a tué des centaines de sportifs et détruit des dizaines de terrains de jeu. Le Conseil a déclaré que les stades et les clubs sportifs se sont transformés en centres de torture et d'exécution, notamment le stade Yarmouk dans la ville de Gaza. Les images et vidéos montrant de jeunes Palestiniens déshabillés et détenus en grand nombre sous la menace d'une arme par l'armée israélienne dans le stade de Yarmouk au nord de Gaza ont choqué plusieurs fans de football du monde entier. Le Conseil basé à Gaza a exhorté les autorités internationales à prendre des mesures décisives et à tenir responsables les forces du régime sioniste pour les actes inhumains contre les athlètes. Mi-décembre, un rapport de la Fédération palestinienne de football mettait en avant la destruction d'au moins 9 installations sportives, 4 en Cisjordanie occupée et 5 dans la bande de Gaza. Il a également fait part de son inquiétude concernant la détention d'athlètes dans les villes de Cisjordanie occupée et les blessures qu'ils ont subies lors des raids militaires israéliens. Fin décembre, un célèbre footballeur palestinien, Ahmed Daragmé, 23 ans, a été tué par les forces israéliennes alors qu'il entrait dans la ville de Naplouse pour escorter des colons juifs vers un site connu sous le nom de tombeau biblique de Joseph dans la ville de Cisjordanie occupée. Les Palestiniens locaux affirment que l'histoire de nombreux athlètes palestiniens tués depuis le 7 octobre reste inconnue en raison du blackout de l'information. Malgré de lourdes difficultés, les athlètes palestiniens n'ont pas perdu espoir et sont confiants de pouvoir participer aux événements sportifs internationaux cette année, notamment la Coupe d'Asie de l'AFC et les Jeux Olympiques d'été de 2024 qui se tiendront à Paris. Jusqu'à présent, deux athlètes palestiniens, Ahmed Al-Zahar et Wassim Naif, ont exprimé leur intention de participer à l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2024. Dans un contexte où on assiste à la montée du sentiment anti-israélien dans le monde, on s'attend à ce que les athlètes refusent de rivaliser avec leurs adversaires israéliens lors d'événements internationaux. Le lutteur palestinien Rabia Khalil, qui s'entraîne en Allemagne et aspire à concourir à Paris, a déjà déclaré qu'il ne voulait pas rivaliser avec des athlètes israéliens. Dans le passé, de nombreuses stars du sport international ont refusé de se présenter contre leurs adversaires israéliens lors d'événements sportifs internationaux, y compris les Jeux olympiques, en signe de protestation contre les crimes de guerre de l'entité de l'apartheid contre les Palestiniens. Les athlètes iraniens, par exemple, ont mené ce boycott anti-israélien. En raison de l'agression continue du régime israélien contre les Palestiniens à Gaza, les appels à exclure Israël des Jeux olympiques de Paris 2024 se sont multipliés. Récemment, un magazine américain s'est penché sur la perspective de la participation d'Israël aux Jeux olympiques de Paris 2024, se demandant s'il devait faire l'objet de sanctions ou d'une exclusion pure et simple. Les attaques israéliennes sur Gaza soulèvent une question que les puissances occidentales du monde du sport aimeraient éviter. Israël devrait-il être pénalisé, voire interdit de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, a interrogé The Nation magazine américain. Un célèbre journaliste de football, dans une interview accordée à Press TV mercredi, a dénoncé l'hypocrisie des organisations sportives internationales pour leur échec à interdire à Israël les événements sportifs mondiaux en raison de son génocide en cours dans la bande de Gaza. Nima Tavaleiroutsari, soutenant une pétition lancée par le mouvement Démocratie en Europe 2025, a déclaré qu'Israël devait également être exclu des événements sportifs internationaux si la Russie l'est à cause de la guerre en Ukraine. Cette hypocrisie ne va pas perdurer. Si elle persiste, je crains que ce ne soit le début de la fin des organisations sportives internationales telles que nous les connaissons, a-t-il déclaré. La pétition affirme que les gouvernements occidentaux continuent de suivre la ligne officielle d'Israël, ignorant le génocide en cours à Gaza avec plus de 23 000 morts jusqu'à présent. Le Comité international olympique, la FIFA, l'UEFA, la FIBA et d'autres organisations sportives sont complices de Tel Aviv car ils autorisent la participation du régime d'apartheid à leurs événements. Après une réponse rapide et une suspension instantanée de la Russie, il leur est désormais difficile de justifier de fermer les yeux sur les actions du régime israélien, a-t-il déclaré. Selon des groupes de défense des droits, un Palestinien est tué toutes les 4 minutes à Gaza, principalement des enfants, et plus de 80% de la population sont au bord de la famine. Il est choquant de constater que le nombre de morts à Gaza au cours des 25 premiers jours de la guerre a dépassé celui de la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus d'un an et demi. Les chiffres dressent un tableau sombre. Plus de 23 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont perdu la vie et près de 59 000 ont été blessés. Les frappes ciblées du régime sioniste ont paralysé les installations médicales, rendant plus de 25 hôpitaux hors service et mettant des millions de vies en danger. Les rapports indiquent que la puissance des bombes israéliennes à Gaza a dépassé celle de la bombe nucléaire Little Boy utilisée à Hiroshima avec l'équivalent de 10 kg d'explosifs pour chaque Palestinien résidant dans la bande de Gaza. Tragiquement, 3 semaines après la guerre, le nombre d'enfants palestiniens tombés en martyrs a dépassé le nombre mondial d'enfants tués dans toutes les régions du monde depuis 2019. Les experts estiment qu'interdire à Israël les Jeux olympiques de Paris 2024 est la moindre des choses que la communauté sportive internationale puisse faire pour tenir le régime sioniste responsable de son génocide à Gaza.